Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Voici le troisième et dernier volume d'une fresque qui nous raconte l'univers du peuple indien en Amérique, sa force, son originalité, mais aussi les violences qu'il a subies et son extermination. Nous sommes dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et pourtant, étrangement, c'est un ouvrage qui est en plein dans notre actualité. Car notre actualité est faite aussi de violences, de mépris, un peu partout dans le monde. Des hommes sont tués, chassés, exploités, dépossédés de tout. Des femmes, des enfants sont tués, violés, tandis que la nature, elle, est peu à peu détruite. Déjà donc, deux siècles plus tôt, dans un monde en pleine expansion, le pouvoir, les grandes richesses s'installaient aux dépens des hommes et de la nature, malgré la lutte désespérée de certains. C'est le constat de ce roman fort et prégnant qui s'intitule « Les Amazones ». Il est édité au Cherche Midi et j'ai le plaisir d'accueillir son auteur, Jim Fergus. Bonjour Jim Fergus.
Bonjour madame, je suis très contente d'être avec vous et merci de m'avoir invité.
Merci à vous d'être venu. Et déjà, pour nos auditeurs, je vais faire une petite mise au point. Il n'est pas obligatoire d'avoir lu les deux précédents ouvrages, « Mille femmes blanches » et « La vengeance des mères » pour comprendre les Amazones, mais sachez que ces ouvrages ont connu un succès planétaire. Ça signifie que vraiment, ce sont des ouvrages également passionnants. Alors, vous êtes pour celui-ci parti d'un fait réel, la demande du chef Cheyenne Little Wolf face au président Grant en 1874 d'échanger 1000 femmes blanches contre des issues de basse extraction contre 1000 chevaux dont la cavalerie avait besoin. Et vous mettez en exergue de votre livre cette phrase de Picasso. Tout ce qui peut être imaginé est réel.
Ouais, c'est vrai.
Très bien, voilà. Et ça nous permet de continuer. Alors, c'est le point de départ de votre roman. Que deviennent ces femmes ?
Ces femmes, d'où elles viennent, c'est ça?
Oui.
Alors, elles viennent un peu des marges de notre société. C'est les femmes qui sont dans les prisons, dans les asiles. À l'époque, par exemple, un monsieur, il avait le droit de mettre sa femme dans les îles, sans même avoir un docteur. S'il tombe amoureux de notre femme, il dit que sa femme est folle et elle passe les prochains 30 ans en prison, en asile. Et donc, ils sont toutes un peu, ils sont toutes ces femmes, elles sont toutes en marge de la société. Ils n'ont pas accepté par la société, un autre qui était meurtrière et un autre qui était, les deux jumelles irlandaises.
Oui, qui sont
des prostituées, les voleurs en fait. Mmh. Et c'est pour ça, parce que moi j'ai essayé d'imaginer à cette époque comment ces femmes peuvent être. C'est qui comme femme, quelles femmes vont considérer de se marier avec les sauvages dans un environnement qu'ils ne connaissent
pas du tout. Elles ont dû avoir peur au départ.
Oui, c'est sûr. Elles ont eu peur. Ouais.
Mais alors ma question, dans le fond, elles ont acquis une forme de dignité.
Les femmes?
Oui, en entrant dans ces tribus indiennes, elles ont été respectées.
Oui, en fait, les Cheyennes, parce que c'est eux qui ont fait le demande de la gouvernement pour cet échange c'était pas bien reçu par la gouvernement, l'idée de les femmes blanches d'avoir les enfants avec les sauvages. En réalité, c'est basé sur un fait historique. qu'ils ont fait le demande, mais ce n'était pas la demande, ce n'était pas le gouvernement qui a envoyé les femmes blanches.
Oui, parce que le président Grant a refusé. Hein.
Oui, il a refusé. C'était moi qui les ai envoyées.
Oui, oui, voilà. Oui, oui, mais comme dit Picasso, ce qui peut être imaginé peut être est vrai.
Oui, c'est
donc
vrai.
Ça se fait autrement, mais ouais. Ou ailleurs.
Mais ça, oui, ça fait référence aussi de les croyances des peuples, les Indiens, des Cheyennes, qui ont des croyances fortes qu'il y a des autres mondes. Il y a, c'est possible pour un homme, une femme, de devenir un changeur de forme, de devenir un autre animal, un autre... personne et c'est ça que je voulais explorer dans ce troisième livre, ce troisième roman, que j'ai touché sur ces trucs un peu avec les premiers deux, mais
oui, on en parle. Vous voulez dire cette spiritualité dans laquelle ils vivent constamment d'ailleurs, hein?
Oui, 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 c'est sûr. C'est très important pour eux. Et en fait, la différence pour eux pour les Cheyennes, pour les Amérindiens des Grandes Plaines, en fait, en général, c'est qu'il n'y avait pas une ligne entre la vie spirituelle et la vie réelle, la vie mystique, un peu chamanistique, et la vie. On peut aller entre les deux. Mm. Donc, ils n'ont pas où. Pas une grande surprise, par exemple, quelqu'un que peut voler.
Oui, oui, on en parlera parce que il y a des événements qui sont vraiment étonnants et intéressants. Mais alors, j'aimerais que vous me disiez, parce que en fait, votre roman, vous l'avez construit sous forme d'extraits, de notes, de journaux intimes de deux personnes. May Dodd et Molly McGill, ou McGill, je ne sais pas comment vous dites. Pourquoi avez-vous choisi ce témoignage de femme blanche? Ça m'intéressait aussi, parce que est-ce qu'il y a un regard à la fois extérieur, elles sont blanches, elles arrivent dans un monde qu'elles connaissent pas, elles ne connaissent pas, et c'est un regard intérieur, parce qu'elles vont avoir des enfants, un mari, elles vont vivre là. C'est ça qui... Vous vouliez un regard autre.
En fait, c'était... Moi, j'ai commencé les recherches sur Mille Femmes Blanches il y a plus que 25 ans maintenant.
Mmh. Parce que vous avez écrit déjà aussi.
Oui, il a sorti aux États-Unis en 98. Ouais. En France en 2000. Donc, j'ai bien fait des recherches, mais à l'époque, je pensais pas que j'avais le droit... d'écrire le point de vue d'un Indien. C'était pas ma culture. J'ai pas assez bien compris la culture indienne à cette époque. Et donc, quand on base un bouquin sur l'échange de Mille Femmes Blanches, il faut avoir les voix des femmes. Mmh. Et moi, je trouve cet format avec les cornets, la première personne, très intime. Et ça, comme homme, ça m'a libéré un peu de mon ego mm-hmm. de homme, et pour essayer d'entrer dans la vie, dans le pot de ces femmes.
Parce qu'elles parlent très librement, elles écrivent très librement.
Oui, tout à fait. Ils n'avaient rien à perdre. Hein.
Ouais.
Ils ont fait pour un peuple eux-mêmes, elles-mêmes, parce qu'ils ne pensaient pas que personne va lire ces cornets. Donc, elles étaient très, très franches avec tout.
On va parler de ces femmes, mais il y a une troisième femme qui s'ajoute, une femme contemporaine, on va dire, qui est une descendante. Et elle, on voit que pour elle, la lutte continue.
Oui, oui, tout à fait. C'était toujours mon intention de amener l'histoire au présent. Parce que c'est important. J'ai déjà écrit sur l'historique et donc je voulais avoir ce personnage contemporain. Et c'est Molly Standing Bear, elle s'appelle. Elle est une femme qui a bien souffert dans sa vie Et
elle a connu la prison de Sing Sing. Ah non, c'est pas elle.
Non, c'était l'autre. C'était le Molly historique. Molly McGill.
Oui, oui.
Et Molly Standingbear, elle était descendante de Molly McGill. Mais bon, elle est une femme jeune, forte et vraiment quelqu'un qui lutte contre, comme toujours.
L'injustice.
L'injustice, exactement ça. Et c'est intéressant parce qu'elle représente pour moi un peu l'âge des femmes. Et qui, moi, je trouve dans le monde entier, dans toutes les races, dans tous les pays, il y a un grand mouvement des femmes pour se libérer, pour égalité, pour avoir l'égalité.
Il y a bien des thèmes, Jim Fergus, bien des thèmes dans votre ouvrage qui montrent un écho dans notre monde actuel. Il y a celui des femmes, mais il y a également celui de la nature. Il y a beaucoup de choses que vous dites là-dedans et on se dit, mais finalement, c'est ce que nous vivons maintenant aussi.
Oui, mais c'est dit, c'est pas moi qui l'a dit, mais c'est dit que, en fait, tous les livres, les romans historiques, même les livres écrits par les historiens, ils parlent de notre temps, de notre époque. Parce que moi, je ne suis pas un homme de 19e siècle, je suis un homme de 20e siècle.
Vous connaissez la définition, l'histoire est un serpent qui se mord la queue.
Oui, c'est bon, moi je ne le connais pas, mais j'adore ça.
Alors donc, il y a deux époques. Bon, une époque la plus meurtrière avec de mémorables batailles, en particulier Little Big Horn, des massacres, des fuites, parce qu'ils vivent toujours à fuir les soldats. Les soldats américains blancs. Et l'actuel, ce que je trouve intéressant justement, c'est que ça montre les séquelles, les dommages qui se sont inscrits dans les familles. Et j'ai fait une comparaison un peu hardie. J'ai pensé que par exemple, les familles que je connais moi, qui ont été touchées par la guerre de 14-18, eh bien les familles ont encore des séquelles aussi. Au niveau famille, vous voyez, il reste des choses qui ont marqué et qui ont démoli certains aspects.
Non, c'est sûr, et c'est ça que on appelle le trauma historique,
qui
les descendants et c'est moi j'ai fait une interview avec une femme pour la magazine America à l'édition sur les Amérindiens, c'est le magazine de François Bounel en fait et j'ai fait une interview avec cette femme Cheyenne, Grand-mère Margaret, elle s'appelle, qui est vraiment une femme extraordinaire, forte, et c'est elle qui m'a expliqué que ça fait 7 générations de sauter de la trauma historique. Mm. Et maintenant, elle a dit qu'on est juste là maintenant. Et les choses vont changer. Mais elle a dit qu'il a devenu, pendant ces générations, de pire en pire, plus en plus difficile pour les peuples. Et on n'a plus de problèmes sur les réserves avec l'alcool, avec les drogues et tout ça. Mais elle dit que ça va commencer à changer et ça va être fait.
Par
les femmes. Mm. Ouais.
Oui. Vous connaissez le poème de Louis Aragon, La femme est l'avenir de l'homme.
Ah oui.
Vous le connaissez pas?
Non, je le connais pas.
Écoutez, je l'avais copié pour vous.
Ah oui.
Et je l'ai oublié.
Ah. C'est...
Ah. Parce que non seulement c'est un très beau poème.
Je connais Aragon.
La femme est l'avenir de l'homme. Et ça a été chanté par un grand chanteur aussi, Jean Ferrat, qui a une très belle voix. Jean Ferrat.
Ah d'accord.
La femme est... écoutez, sur Internet, vous le trouverez.
Ah non, je vais regarder. Non, il a raison, c'est sûr. Hein.
Alors voilà, alors donc, on parle de ces femmes. Ce sont des femmes... alors, à un moment donné, il y en a une qui parle des hyènes irlandaises. Les hyènes, ce sont ces animaux mi-chien, mi... Les hyènes, je ne sais pas comment on dit en anglais. Comment on appelle ça? Une hyène. C'est un animal... qui est assez féroce.
Ah, je me souviens pas. Je sais pas
c'est
le.
Dans
le,
la traduction, le mot, les hyènes.
C'est écrit comment?
H-Y-E-N-E. H-Y-E-N-E.
Ah oui, c'est, on dit hyena.
Oui.
Hyena, c'est ça.
Maintenant que vous le dites, oui.
Ouais. Et, je ne savais pas que c'était dans la traduction.
Oui, les hyènes irlandaises. Il y en a une qui parle d'elles comme des hyènes irlandaises.
Ah, d'accord. Ça a une expression, ça doit être une expression française ou quoi?
C'est pas... Non, pas spécialement.
Non, parce que je ne sais pas comment c'est écrit. Moi je travaille beaucoup avec mon traducteur.
On pourrait en parler parce qu'il traduit très bien.
Je trouve.
Bien.
Ouais,
alors, ce sont elles des victimes au départ, et vous l'avez mentionné à un moment donné, il y a ces jumelles orphelines, une évadée de Sing Sing, on en a parlé, une autre envoyée dans un établissement psychiatrique par son père. Enfin, bon, elles, ce sont des victimes, mais on les découvre très fortes, courageuses, et finalement indépendantes.
Oui, mais c'est... Moi, j'ai bien pensé de quelle sorte de femme
Résister.
Être capable de survivre dans cet environnement, dans une culture inconnue, complètement différente, dans les circonstances impossibles, dans les tipis avec une tribu nomadique. Et donc, je me suis rendu compte tout de suite qu'il faut être quelqu'un fort. Il faut être les femmes fortes. Mm. Et ceux qui étaient faibles dans Mille Femmes Blanches, ils n'ont pas existé. Ils n'ont pas
résisté.
Non. Ouais. Et donc, c'est pour ça, ils s'adaptaient.
Oui. Parce que dans le fond, ces femmes-là ont eu une vie beaucoup plus libre que les femmes de la même époque dans le milieu européen occidental.
Oui, dans une certaine façon, mais c'est vrai aussi que les Indiens étaient tous les chefs, par exemple, ils étaient des hommes. Ils ont les je ne sais pas le mot exactement en français, mais les council, où on fait toutes les décisions pour le tribu, pour faire la guerre ou pour les mouvements.
Une
espèce de conseil. Oui. Et les femmes n'étaient pas permises, mais les femmes... Ils géraient, ils étaient en charge. C'est eux qui avaient la pouvoir dans la maison, dans le tipi. Et c'est eux qui avaient beaucoup d'influence. Mais c'était une influence cachée un peu.
Oui, comme on disait pour les femmes, même en France hein, aussi, on disait la femme, dans le fond, c'est elle qui gouverne. Mais ce n'était pas vrai quand même, hein.
Oui, c'est vrai.
Mais par exemple, vous me dites ça, mais en définitive, il y a une femme qui devient chef.
C'était très, très rare. C'était Prétinos qui était sur la couverture de La Vengeance des Mères.
Mais on la retrouve là.
Elle est là, dans les Amazones aussi. C'est basé sur un vrai personnage. Elle était vraiment une guerrière, une femme guerrière et aussi un chef. Elle a eu le titre d'un chef de guerre.
Oui.
Et qui était extraordinaire. Mais vous savez, à la fin de ces guerres, qui ont duré pendant au moins deux, trois siècles même, contre l'armée, ils ont perdu toutes les tribus des plaines, ils ont perdu beaucoup de guerriers. Donc les femmes, à la fin, il y avait des petites bandes ici et là qui étaient en train d'essayer de vivre encore libre. Et les femmes, elles ont eu besoin de devenir des guerrières. Ça, c'est basé sur mes recherches aussi.
D'accord. Alors justement, vous avez appelé votre ouvrage « Les Amazones » et pour cause, ce sont vraiment des Amazones, des guerrières, et elles montent à cheval d'une manière incroyable.
Oui, mais pas tout.
quand elles le font...
Ils ont eu besoin d'apprendre un peu. Les quelques-uns qui étaient déjà assez confortables à cheval, mais les autres qui n'étaient pas du tout.
Mais enfin, sont des Amazones dans leur tête aussi.
Oui, voilà. Mais c'est vrai que... Et les Cheyennes, les Indiens des Plaines, étaient les cavaliers extraordinaires.
Capables de
faire tout à cheval et de faire, mais ils étaient vraiment, ils ont tout fait. Donc ces femmes, pour être guerrières, elles ont eu besoin d'apprendre toutes ces façons de faire la guerre à cheval.
Oui. La lutte indienne, vous savez, vous parlez de lutte indienne aussi là-dedans. Une lutte indienne, je suppose que c'est on se bat physiquement.
Ah oui, oui, ah oui, tout à fait. Ouais. Ah oui, c'est beaucoup de les Indiens, de beaucoup de la guerre, c'était fait à main.
Oui, oui. Alors, ce qu'on voit, donc, c'est performance sportive incroyable. Donc, faire du cheval sans les rênes, par exemple, il faut le faire. Cette capacité également à se battre, donc. Et en même temps, il y a des épisodes assez émouvants. Il y en a une qui va être émue par le carnet d'un soldat qu'elle va trouver.
Ouais.
Et là, on se dit, bon, elle est quand même une mère aussi.
Oui, tout à fait. C'est intéressant parce que une chose que j'ai appris après des années, quand j'ai eu un peu de critiques, j'ai reçu un peu des mails et des critiques des Indiens, ils ont bien apprécié le fait que j'ai pas fait un portrait de l'autre des stéréotypes. Mmh. Parce que c'était un peuple violent, hein. C'était une culture violente, avant l'arrivée des Blancs.
Oui. Entre eux. Et à un moment donné, vous dites qu'ils vous montraient qu'ils sont capables aussi, ils ne respectent pas les morts.
Non.
Les morts des ennemis.
Non, en fait, ils ont fait, mais c'était surtout à la fin des guerres, parce qu'ils étaient tellement en colère contre l'armée américaine, contre le gouvernement américain. C'était les vieux qui ont fait ces mutilations et des corps et après la bataille. C'était ça qui s'est arrivé à plein des soldats de Custer.
Oui.
Mais sauf Custer, parce que Custer était un guerrier. En fait, ils ont eu beaucoup de respect pour Custer.
Oui.
Donc, ils l'ont laissé, ils n'ont pas mutilé. C'est pas le mot, on dit mutilé.
Mutilé, oui, ouais. Oui, oui,
et,
effectivement.
Il
y a d'ailleurs, à Little Big Horn, il y a un musée où on montre Custer et on parle de son courage et du respect qu'il avait pour les Indiens.
Ouais. Oui, oui, il avait du respect, mais quand même, il voulait l'éradiquer. Hein? C'est bon. Et lui, il a eu, à une certaine période de sa vie, il avait une femme Cheyenne, Custer. Il a eu toute une famille avec...
Il a quand même combattu les Cheyennes.
Cheyennes, mais il était soldat. Hein, donc,
Alors, Jim Fergus, je vous propose une pause musicale. On a essayé de trouver une musique indienne. Et je crois que Christophe a trouvé une musique indienne.
Super.
Parole d'auteur. Monique Fauché.
Voilà, nous retrouvons Jim Fergus qui vient nous parler de son dernier roman, ou nouveau roman, Les Amazones, paru aux éditions Cherche Midi. Et je rappelle qu'il y a eu de très beaux romans qui font partie de la trilogie, puisque celui-là est le troisième, « Mille femmes blanches et la vengeance des mères », qui ont reçu un franc succès. Alors, Jim Fergus, oui, on parlait de ces batailles, et on parlait de Little Big Horn en particulier. C'est très curieux comme les westerns nous ont façonné l'opinion. Parce que dans les westerns, la plupart du temps, les Indiens étaient les méchants.
Oui, mais c'est ça le stéréotype.
Oui, absolument.
C'est les films de John Ford que j'ai vus comme enfant, et c'était toujours ça. Ils étaient toujours les méchants, et tout le monde avait peur d'eux. Et c'est vrai qu'ils étaient assez effrayants. Ils avaient la capacité d'être assez violents, assez effrayants, c'est sûr. Mais l'autre extrême que j'ai commencé à dire, c'est l'autre extrême, c'est le sauvage noble. Ils sont spirituels,
les gentils.
Et gentils, et c'est les méchants américains qui sont arrivés et tournés. Et en fait, ils sont des humains.
Ils sont capables
d'une grande spiritualité, et à l'autre côté de commettre les atrocités affreuses. Comme tous les races. Tous les peuples, tous les humains.
Tout à fait.
Et donc, c'est ça qu'il faut se souvenir. Et maintenant, on change un peu. Mais une chose qui me fascine, qui me confonde un peu, c'est que la plupart des Américains ne connaissent rien au sujet des Indiens.
Actuellement,
dans la situation sur la réserve, la plupart ne connaissent rien de l'histoire, rien. Je reçois encore des mails, des critiques, des lectrices, des lecteurs qui me disent que j'ai lu votre bouquin et j'ai jamais compris que le gouvernement a traité les Indiens comme ça.
D'accord.
À voler le terrain, à les amis. Mais c'est parce que c'était pas enseigné dans les écoles.
Dans les cours d'histoire,
tout.
Non
pas. Maintenant, ça commence un peu.
Ouais.
Mais à l'époque, pas du tout. Je crois qu'ils ont... Je crois que c'était quelque chose caché, parce que...
Honteux.
Honteux, c'est ça, exactement ça.
Ouais. D'accord. Voilà, alors donc, on part évidemment de cette violence chez les Indiens comme chez les Blancs, hein, il faut bien le dire, mais les Indiens pouvaient faire peur également. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé la description physique de ces femmes, qui sont blanches au départ, hein, qui sont habillées d'une manière assez étonnante, bariolées, avec des dessins sur la peau, et ça devait être très impressionnant. Et en particulier cette jeune contemporaine qui arrive dans un bureau où il y a une secrétaire derrière son bureau très, très gentille.
Ouais.
Ça, c'est vraiment très drôle. On imagine la surprise et la peur. Alors, évidemment, il y a la place de la nature. Alors, quiconque connaît ces contrées, le Montana, le Wyoming, le parc du Yellowstone, imagine combien c'est la Terre à sa naissance, quasiment. C'est très beau, c'est magnifique. Et le parc du Yellowstone, bien entendu, est préservé, comme d'autres régions d'ailleurs. C'est très beau. Et donc, en particulier, à un moment donné, il y a une belle description quand il découvre une vallée cachée. Et c'est une vallée cachée, dit Blanc.
Oui, c'est ça, exactement.
Ouais.
C'est basé sur une croyance des Cheyennes qu'il y a un autre monde, le vrai monde derrière celui-ci.
Ouais.
C'était quelque chose qui m'a toujours fasciné. Et c'est ça que je voulais explorer dans ce troisième, le fin de la trilogie. Idée qu'il y avait un endroit où il peut échapper. Et ça, c'est vraiment le luxe de la fiction. Mmh. On peut créer un monde. Parce qu'il n'y a pas des fins heureuses dans les histoires de cette époque pour les Indiens. Mmh. Ça n'existe pas. J'ai déjà commencé Mille Fins Blanches avec... J'ai terminé Mille Fins Blanches avec un massacre. Parce que c'était comme ça. Et moi, j'essaie de construire pour les Trois et pour les Amazones aussi une espèce de structure historique. Donc, tous les mouvements de l'armée, tous les mouvements des tribus, où ils ont où... Je connais très très bien ce paysage. J'ai passé la plupart de ma vie adulte en train de voyager entre ce paysage de l'Ouest. J'adore l'Ouest, à Montana, Wyoming, Colorado, Nouveau-Mexique, les Dakotas.
Ce que les Européens, excusez-moi, je vous interromps, ne peuvent pas imaginer parce que c'est immense.
C'est ça. Ouais, c'est immense.
On est tout petit, l'homme est tout petit.
Oui, tout à fait. On le sent. Oui. On le sent dans les grandes plaines. On est tout seul et on comprend comme notre petite vie est pas si importante après
Absolument.
Tout.
Absolument, oui, exactement, voilà. Exactement. Et donc, la nature pour les Indiens, elle est tout, on pourra en parler, elle est généreuse parce qu'elle leur fournit tout. L'alimentation, les abris, les vêtements, les chevaux même qui ont été importés par les Blancs et qui les aident à se déplacer. La nature déjà leur fournit tout, mais aussi ils la respectent dans tous les domaines.
Oui, c'est vrai, mais ils se sont considérés une partie de la nature.
Oui, c'est ça.
Pas séparés de la nature. Ils n'avaient pas besoin, comme nous, de changer la nature, de détruire la nature, de le gérer, de le régler. Ils ont accepté tous les animaux. Et pour eux, ils étaient simplement un autre animal.
Oui, oui. Pas plus haut placé.
Pas plus haut. Ouais. C'est-à-dire, on a les humains, on a les loups, on a les coyotes, on a les ours, et on a tous les animaux différents, et on a les humains.
Ouais.
Et donc, c'est vrai qu'ils ont respecté parce qu'ils ont besoin de la nature.
Ils ont eu besoin de
les bisons.
Les bisons en particulier, qui étaient leur nourriture.
C'est,
et leur peau. Et qui chassaient, mais d'une manière tout à fait restreinte. C'était pas...
Oui, non, mais ils ont considéré le bison le frère. La famille, une partie de la famille. Et tout ce qu'il avait, ils ont construit les tipis avec les peaux des bisons. Oui. Ils ont fait les vêtements avec les chaussures, les couvertures pour le lit, tout était... Et les os, rien n'était gâché.
Rien n'est gâché.
Oui, et c'est ça. Et donc... c'est comme ça que l'armée, enfin, en fait, ils ont vraiment terminé les guerres contre les Indiens. C'est pas éradiquer les bisons, les grandes. C'est comme ça parce que on enlève la façon de faire culture était basée sur les bisons, sur la vie nomadique. Donc tout à coup ils sont dans la réserve, ils sont interdits de quitter les réserves, ils peuvent plus faire la chasse, il n'y en a plus des bisons. Et c'est comme ça qu'ils ont dit mais c'est quoi le point, c'est notre vie, c'est fini, c'est terminé.
Alors vous avez parlé aussi, on a parlé un peu de spiritualité, vous avez parlé de ce second univers qui vive. Il y a un mode de pensée différent, en particulier à un moment donné, Molly, notre contemporaine, dit ce garçon qui est également un descendant des femmes blanches vivant avec les Indiens. Il vous faut une ligne droite du début jusqu'à la fin, alors que dans notre culture, le monde est une courbe avec des ellipses. Et selon la tradition, les récits s'y entrecroisent avec leur mort et leur naissance et s'imprègnent les uns des autres sans forcément aboutir. Ils se poursuivent indéfiniment de façon ambiguë parfois. Si vous aviez jamais écouté un vrai conteur chigène ou ceux des steppes caucasiennes dont nous descendons, vous le sauriez. Pour la plupart des Blancs, leurs histoires n'ont pas beaucoup de sens, elles offrent trop d'interprétations, sans doute n'ont-elles pas réellement de début ou de fin, mais notre peuple les comprend sans problème. Un mode de pensée intéressant, oui, justement.
Oui, c'est fascinant et c'est pour moi, c'est quelque chose qui était très difficile pour moi d'apprendre aussi, parce que je suis blanc. Mais c'est vrai que tout dans le vie était dans un cercle. Les tipis étaient dans le cercle. La façon qu'ils ont fait les villages, c'était toujours dans un cercle. Oui. Et les histoires qu'ils ont racontées, toutes les traditions orales étaient dans des cercles. Et c'est vraiment. J'adore cette idée. Et c'est pour ça que j'avais besoin de Molly Standing comme personnage pour m'expliquer au lecteur comment
avec
c'était.
Ce mot...
Parce que moi, je ne peux pas le faire. Je suis blanc. J'avais besoin de Molly pour m'expliquer toutes ces différences.
D'accord. Alors, on voit aussi que dans leur culture, il y a le grand chef, mais il y a le medicine man qui est le chef religieux. Qui a des pouvoirs magiques et qui est en relation avec le grand esprit. Alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est de voir, vous raconter que chaque Indien a un sac médecine dans lequel il met des totems, des objets,
ouais, tout à fait.
Des porte-bonheur,
ouais.
Parce qu'il croit à cela aussi. Et il y a une chose assez incroyable, c'est cette histoire qui arrive à Molly. On la croit morte et il y a beaucoup d'interprétations. Et c'est toujours, jusqu'à la fin, c'est un mystère. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, il faut le lire.
Il faut le lire. Oui, il faut le lire.
Il faut le lire. Mais en fait, j'ai laissé ouverte un peu pour le troisième après La Vengeance des Mères. Vous parlez de la fin de La Vengeance des Mères. Et j'ai laissé ouverte un peu les portes.
Voilà.
Parce que je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire avec ça pour le troisième. Mais je savais très bien que je voulais explorer un peu cette monde spirituel, cette monde à côté de le nôtre, derrière le nôtre. Et c'est comme ça que... Et oui, c'était quelque chose de mystérieux. C'est très mystérieux.
Oui, oui, oui. Alors les rêves, les visions ont beaucoup d'importance.
Beaucoup.
Ouais. On voit quand même qu'ils ont une pensée magique et en fait qui prend beaucoup de place dans leur vie. Alors ça aussi, c'est assez fascinant. Bon, on ne va pas avoir le temps de parler de tout ça, mais je voudrais qu'on parle de l'adéquation que moi j'ai découverte dans votre livre. Alors, j'espère ne pas m'être trompée, mais en fait, ce qui existe actuellement, c'est finalement, on voit les problèmes des femmes, on voit le problème de la nature, il y a beaucoup de points dont vous parlez, et le respect des gens, et on voit tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Vous pouvez nous en dire un mot comment voyez-vous toutes ces... Tout ce qui ressurgit, vous dites que l'histoire finalement revient, mais les femmes, par exemple, il y a avec MeToo ou Balance ton porc, il y a une prise de conscience actuellement.
Ah oui, c'est sûr. Et comme j'ai dit, c'est à mon avis, c'est l'âge des femmes et dans tous les sens. Et c'est ça que Molly elle représente. C'est une lutte contre le fait. J'étais très très fier parce que vous savez très bien que on n'a pas beaucoup. C'est difficile d'avoir beaucoup de fierté pour les politiques américains oui. ces jours-là. Ça, c'est sûr. Mais pendant les élections de 2018, on a élu 3 femmes indiennes au Congrès.
Oui.
Et c'était extraordinaire. Et ce sont des jeunes femmes fortes qui vont changer le monde. Et moi, c'est ça que je le crois. Et ça, c'est tellement désespéré cette histoire de ce qui s'est passé aux Indiens à cette époque et peut-être c'est une façon de mon âge aussi que et toute la violence dans le monde maintenant mais je voulais ce troisième roman que on le quitte avec un peu d'espérance un peu d'espoir. Et Molly, elle représente ça aussi. Et je ne voulais pas terminer le livre avec un autre massacre.
Oui. Alors que c'est vrai, parce que moi, je pensais donc les Indiens, mais en ce moment, en Birmanie, avec les Rohingyas, je ne sais pas si vous êtes au courant, dans ce pays, en Birmanie, il y a toute une population qui est chassée, persécutée.
Ah ouais.
En Syrie, les Druzes, les Kurdes, bien sûr.
Oui, hein. tout à fait.
La disparition des Tibétains également, que la Chine écrase, voilà.
Ouais.
Mais aussi, parlons de la nature, parce que là, on va rester sur une note d'espoir aussi, puisque les gens prennent conscience de ce qui se passe par rapport à la nature.
Oui, ils prennent, mais enfin. Mais c'est une grande question et moi j'ai peur c'est moi j'habite dans la nature, j'adore la nature et dans tous mes livres, tous ces 3 livres c'est toujours un personnage dans les
très,
livres
très présent.
Et maintenant on le voit avec le réchauffement climatique et ce qui se passe dans l'environnement, les incendies au Brésil
et en Californie, et les
inondations en France même, dans partout, tout a changé, tout est en train de changer et ça va devenir de pire en pire. Il faut qu'on fasse quelque chose, mais quoi? Comment on va changer
le mode de vivre,
ouais. C'est ça.
Il y a des tentatives quand même.
Oui, c'est vrai. Et comme j'ai dit, je veux avoir un peu d'espoir que ça va arriver. Peut-être ça va être technologique aussi. Il faut que la société devienne de moins en moins consommateur et de moins en moins dépendant de matérialistique et tout ça. Et c'est ça que j'ai bien aimé. Admirer des Indiens, parce que ce n'était pas une culture matérialistique. C'était une culture qui, comme vous avez dit, qui vivait dans la nature, qu'ils ont pris ce qu'ils avaient besoin.
Avec
ils ont
très
redonné.
Peu de choses.
Ouais, très, très peu de choses, et parce que c'était un peuple nomadique aussi, ils ne pouvaient pas ramasser, ils ne pouvaient pas avoir les grandes télévisions.
Oui, bien sûr,
maintenant, sur la réserve, malheureusement, souvent les Indiens, ils ont appris toutes les mauvaises choses de la culture, de la société.
Et on les a coupés de leur propre culture.
Voilà, mais on a détruit leur propre culture. Donc, oui. Et donc, sans les bisons, sans le droit d'être nomadique, sans de faire la chasse, c'est évidemment, ils n'ont pas aucune aucun choix sauf d'être comme nous. Mais ils n'ont pas bien assimilé dans la culture américaine, c'est sûr.
J'ai lu qu'on estime qu'il y avait entre 5 millions d'Indiens d'Amérique qui habitaient en Amérique et que maintenant elle est réduite à 250 000.
Ah bon? Je ne sais pas exactement les statistiques.
Voilà, pour... j'ai lu ça, sous toute réserve. Mais bon, il y a des maladies importées. Hein, les maladies, il y a eu beaucoup de choses.
Oui, hein, non, mais c'est vrai qu'ils ont des vrais... tous les tribus étaient énormément diminués par les maladies.
La rougeole,
Oui. Et maintenant, ils ont grandi. Et je parle de ça dans le troisième, cet phénoménal de disparition des femmes. Des réserves et des villes. Parce qu'il y a pas mal des Indiens qui habitent dans Denver, par exemple.
Alors, il paraît que la majorité des Indiens, d'ailleurs, vivent en ville maintenant.
Je ne sais pas si c'est la majorité. Ça dépend sur les tribus.
Oui.
Ils ont des tribus qui ont beaucoup plus de... mais ils sont pas... Ils sont très bien... Ils sont pas très bien assimilés dans la société. Ils sont beaucoup des alcooliques et ils habitent sur la rue et les prostituées et pas tout, mais il y a beaucoup d'exceptions. Ce sont des femmes formidables qui grandissent sur la réserve et maintenant ils font des trucs formidables et soutiennent les tribus et ces femmes, par exemple.
Il y a une prise de conscience, donc.
Oui, maintenant, enfin. Et ça va continuer et devenir de plus en plus fort, je crois, j'espère.
Oui, et pour la nature aussi, puisque les jeunes ont l'air de s'y intéresser.
Oui, c'est ça qui est important, cette nouvelle génération. Et malheureusement, on a laissé pour eux une catastrophe. Et moi, j'ai honte de ma génération. Ma génération qui était tellement activiste dans les années... Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a devenu des consommateurs et on a devenu comme...
Des prédateurs.
Et on n'a pas protégé l'environnement. Mais cette nouvelle génération, ça va être une faute. J'adore cette jeune femme suédoise comment elle s'appelle?
Je n'ai pas retenu le nom, mais
ça m'échappe. Mais ouais. Non, elle a 6 ans. 16 ans.
Oui, oui.
16 ans. Et elle lutte c'est elle qui aussi qui fait sa génération elle est réveillée un peu.
Oui, parce que c'est leur monde à eux maintenant.
C'est à eux maintenant et ils commencent de se rendre compte que qu'est-ce qu'on les a laissés, mais qu'est-ce qu'on va faire?
Dans votre livre, il me semble avoir lu que en fait, on n'a pas hérité la nature de nos parents, mais que ce sont nos enfants qui nous ont prêté la nature.
Ah oui, c'est
réflexion d'un Indien.
Oui, je crois que c'était ça. Je me souviens plus qui l'a dit, mais c'était malheureusement c'était pas moi.
C'est comme si c'était vous. En tout cas, écoutez, grâce à vous, on s'est tous intéressés aux problèmes des Indiens en étant bien conscient que il y a d'autres problèmes actuels et justement, informé par ce qui s'est passé pour les Indiens, on peut peut-être essayer d'agir pour les autres.
Oui, j'espère. C'est pas moi, je suis pas un écrivain politique tellement. C'est simplement pour moi, j'essaie de d'écrire les
Au
romans
roman,
vrais
bien
et
sûr.
les romans de qui dit la vérité au sujet de c'est pour ça que j'ai passé 20 ans comme journaliste et donc comme romancier, j'utilise beaucoup de mes capacités. Comme
Connaissance,
mes
oui.
connaissances de journalisme et de recherche et de tout ça.
Et est-ce que vous ne croyez pas que le roman fait mieux passer les sentiments, la compréhension finalement, que un article ou un roman historique? On comprend de l'intérieur.
Oui, ça peut. Oui. Je crois que c'est un peu le bout de la plupart des romanciers, en fait. C'est de faire voir ces mystères et ces réalités
Exactement.
les circonstances.
En tout cas, un grand merci, Jim Fergus, pour nous avoir consacré votre temps, nous avoir parlé de ce troisième roman, puisque c'est une trilogie. Il n'y aura plus rien après, si, il y aura d'autres livres.
Ah, mais oui, non, je vais continuer à écrire.
Oui,
Hein,
bien sûr, bien
non,
sûr.
mais ça,
Mais
c'est.
on va
Ça,
quitter
c'est
les Indiens, peut-être?
la fin de la trilogie.
D'accord.
Mais on verra. J'ai des projets en tête. Mais pour cette histoire, c'est terminé.
Voilà, alors Les Amazones aux éditions On Cherche Midi, et c'est Jim Fergus qui nous a accordé cet entretien. Merci.
Merci à vous. Merci, madame.